Bonjour mesdames et messieurs, ici Eric Lantier au microphone, je vous remercie de prendre part aux grands titres du jour en ce lundi 20 juin. Veuillez noter que les grands titres du jour concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Aujourd'hui, il est question d'un vote sur le mariage gay en Australie, d'un incident devant une mosquée de Québec, de théologiennes féministes, des non-binaires et de Couche-Tard qui fait une acquisition en Estonie. Débutons par cet article qui a été publié sur la plateforme du journal La Presse et qui s'intitule « Le premier ministre australien promet un vote sur le mariage gay. » Voici ce que dit le premier ministre d'Australie à cet effet. « Si nous sommes victorieux le 2 juillet, nous nous attendons à ce que le Parlement légifère rapidement en faveur d'un plébiscite. » Un plébiscite, mesdames et messieurs, c'est à peu près l'équivalent d'un référendum. Donc, c'est une volonté populaire qui est exprimée, qui est sollicitée par un gouvernement. Et, dans cet article, l'agence France Presse poursuit en disant ceci. Le Parti travailliste a lui promis d'organiser un vote au Parlement sur la législation du mariage entre personnes de même sexe dans les 100 jours après une victoire. Il estime que demander au public de se prononcer, c'est laisser la porte ouverte à l'homophobie. Donc, vous avez le parti du premier ministre, Turnbull, qui lui, s'il est élu le 2 juillet, il veut faire passer un référendum sur la question du mariage gay. De leur côté, le Parti travailliste, qui est un peu l'équivalent du NPD ici au Canada, lui, ce qu'il veut, c'est que ce soit les parlementaires qui votent, parce qu'il se dit, si on laisse le public se prononcer, on ouvre la porte ou on laisse la porte ouverte à l'homophobie. Ben, en fait, ce que le Parti travailliste est en train de dire, mesdames et messieurs, c'est qu'on ne veut pas que les gens qui ont une opinion non favorable au mariage gay, puisse s'exprimer. C'est ce qu'on est en train de dire. Et c'est ce qu'on est en train de faire un peu partout dans le monde industrialisé. On est en train de dire que quiconque s'oppose, quiconque exprime un malaise, un inconfort, une opposition à une pratique sexuelle qui est différente d'une pratique sexuelle monogame hétérosexuelle, n'a pas sa place dans la démocratie. C'est ce que le Parti travailliste est en train de dire, mesdames et messieurs. Et je termine avec un autre extrait de cet article qui nous dit ceci. En Australie, les couples du même sexe peuvent nouer des contrats d'union civile et faire reconnaître leurs relations dans la plupart des États australiens, mais ces unions ne sont pas reconnues au niveau fédéral. Eh bien, mesdames et messieurs, en termes de préférence, c'est très personnel, c'est mon opinion. Eh bien, je préfère un référendum sur la question du mariage gay qu'un vote en chambre. Mais au moins, ces politiciens-là ont quelque chose qui est tout à leur honneur, contrairement au Parti libéral du Canada. Rappelez-vous, lorsqu'il était question du mariage gay, le Parti conservateur s'était opposé, clairement, en campagne électorale. Les libéraux n'avait pas averti la population qui allait passer une loi sur la question du mariage gay. Ça a été décidé comme ça. Et cela, ça démontre qu'il y avait un manque de transparence. Mais au moins en Australie, ils sont transparents. On doit leur donner ça. À ce moment-là, les électeurs pourront voter selon leur choix et leur conscience. Il reste au moins ça. Maintenant, allons sur la plateforme du Devoir. Une tête de porc devant une mosquée de Québec. Et oui, mesdames et messieurs, ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Et voici ce que nous dit cet article qui a été publié sur la plateforme du Devoir. La tête de l'animal dont la viande est interdite de consommation par le Coran a été placée dans un emballage cadeau transparent accompagné d'une note sur laquelle était inscrit « Bon appétit ». Le geste fait en plein Ramadan a été dénoncé par le président du Centre islamique de Québec, Mohamed Yangi. On n'a pas de problème avec quiconque et on respecte la population. On souhaite que ce soit mutuel, a-t-il déclaré à Radio-Canada. Le service de police de la ville de Québec a ouvert une enquête. Eh bien, c'est clair que ce geste est déplorable. C'est un manque de respect flagrant. On a beau ne pas être d'accord avec le fait que les musulmans ne mangent pas de porc, mais de là à les insulter de la sorte, je trouve qu'on va trop loin ici, mesdames et messieurs. Il y a une différence entre manifester son désaccord et être irrespectueux. Pour moi, il y a un océan entre les deux. Et là, on vient de franchir cet océan. Qu'est-ce qui se passe dans d'autres communautés? Eh bien, il y a des théologiennes qui vont donner du fil à retordre à M. le pape. Et oui, encore une fois sur le devoir, qu'est-ce qu'on nous dit? Théologienne féministe et pape traditionnaliste. Voici ce qui est écrit. Montréal accueillera en août le 7e Forum mondial Théologie et Libération. Plusieurs pays, Inde, Kenya, Brésil, États-Unis et Mexique, seront représentés. Deux théologiennes d'ici, Denise Couture et Pauline Jacob, sont du panel publié par L'Autre Parole, un regroupement de femmes féministes et de chrétiennes actifs depuis 40 ans au Québec. Et oui, mesdames et messieurs, ce regroupement est actif depuis 40 ans au Québec. Je poursuis. Une place importante y sera faite, promettons, à l'approche féministe. Or, l'ouverture du pape François aux femmes dans l'Église y sera sans doute mise à rude épreuve. Donc, ce qu'on comprend dans cet article, c'est que ces femmes-là vont être là pour défendre un agenda féministe au sein de l'Église catholique. Mais est-ce que le pape François va manifester une ouverture à cela? Eh bien, la question se pose. Et je crois que si on lit profondément cet article, il y a beaucoup de sceptiques dans cette salle. Mais je poursuis. Pour des féministes chrétiennes, en effet, il ne s'agit plus d'ouvrir le sacerdoce aux femmes pour des qualités qui seraient intrinsèquement féminines, encore moins de créer un sacerdoce féminin, notait L'Autre Parole en 1989. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on ne doit pas ordonner des femmes à la prêtrise parce que leur qualité féminine serait un atout. Puis on ne veut pas créer un sacerdoce qui est féminin, ça veut dire qu'on ne veut pas ouvrir comme une prêtrise féminine. Ce qui réclame depuis 1989, c'est vraiment l'égalité totale. Ce qu'on nous dit plus loin, c'est que de nos jours, plusieurs féministes refuseraient sans doute de cautionner un ministère hiérarchique, fût-il ouvert aux femmes? Encore une fois, c'est une question d'égalité et non pas de hiérarchie. Et en terminant, j'aimerais vous faire part de ce dernier segment dans cet article qui dit ceci. Chez les catholiques, le pape actuel et les féministes font face à un cruel dilemme. Des conseillers de François le mettent en garde contre des changements qui risquent de diviser l'Église. Évidemment, toute la question de l'ordination des femmes divise non seulement l'Église catholique, mais également les Églises évangéliques au Québec. Sur la plateforme du Journal de Montréal, il y a un article qui est fort intéressant, qui s'intitule « Ni madame, ni monsieur ». Et cet article nous en dit long sur notre société. Avec la sortie de Cœur de pirate qui disait qu'il était queer. Et queer, c'est de ne pas avoir d'identité sexuelle. Bon, moi, je qualifie ça de bisexuel, parce que si tu n'as pas d'identité sexuelle, donc tu es ouvert aux deux. Mais non, justement, c'est une non-étiquette. On se donne une nouvelle étiquette pour ne pas être étiqueté. Et jusqu'où ça va aller? Bien, c'est fort complexe, parce que dès qu'on déconstruit les normes établies par Dieu dès l'origine, c'est certain qu'on s'en va dans un univers morcelé. Et on va arriver à un moment donné où est-ce que chacun va faire ce qui lui semble bon. Voici ce que nous dit essentiellement cet article. Le nombre de personnes qui se définissent comme non-binaires dans le genre au Québec semble être en croissance, bien qu'il n'y ait pas de chiffre à cet effet. Combien êtes-vous à vous identifier comme tel dans votre communauté? Eh bien, je ne pensais pas au travers tout l'article parce qu'il y a beaucoup de contenu là-dedans. Je vous invite à le lire parce que c'est vraiment préoccupant. C'est vraiment préoccupant parce que je me dis, mes petits-enfants puis mes arrière-petits-enfants vont atterrir dans quel genre de société? Et écoutez bien ce qu'on dit au cœur de cet article. De quel genre étiez-vous avant de vous définir comme non-binaire? Je ne veux pas le dire, parce que répondre à cette question, c'est dire quels sont mes organes génitaux. Au fond, ça n'a pas d'importance. Sans me le demander, on m'a assigné un genre auquel je ne m'identifie pas. C'est pour ça que je considère que j'ai un vécu de trans. Quand on dit ici que ces gens-là se définissent comme non-binaires, ça veut dire qu'ils refusent d'être identifiés autant à un sexe qu'à un autre. Il n'y a pas ni homme ni femme. Déjà là, en partant, il y a quelque chose qui cloche. Dieu a créé l'humanité, homme et femme. Et c'est par ce moyen-là qu'on se reproduit. C'est par cette différence-là qu'on s'unit pour former une famille. Mais j'aimerais vous relire une phrase qui est vraiment au cœur de l'esprit qui anime ces gens qui s'identifient comme étant non-binaires. Ce que la personne qui a été interviewée va dire, c'est ceci. « Sans me le demander, on m'a assigné un genre auquel je ne m'identifie pas. » Écoutez, cette personne-là a dit « On m'a assigné un genre. » Quand je lis ça, je me dis « Qui t'a assigné un genre? » Si c'est Dieu, mais là, tu es en train d'exprimer ta colère contre Dieu parce que tu dis « Dieu, tu m'as assigné un genre, mais je ne m'identifie pas à ce genre-là. Il y a une erreur dans ton plan. » Maintenant, d'un côté, je me dis « Wow, ça ne doit pas être facile de ne pas s'identifier au genre qui nous a été assigné dès notre naissance. » Ça doit être assez difficile. Quelqu'un qui se croit une femme, mais qui vit dans un corps d'homme ou vice-versa. Mais en même temps, ce que ça produit des gens qui sont en train de remodeler l'humanité. Et avant d'accueillir à bras ouverts tous ces nouveaux concepts qui vont remodeler notre culture, il faut se poser des questions. Il faut être attentif et pas se précipiter à opérer de grands changements sociaux qu'on va regretter plus tard. Parce que ce qu'ils veulent, ces gens-là, c'est redéfinir la culture. Par exemple, si vous allez à la fin de l'article, vous allez voir un lexique. Il y a toutes sortes de nouvelles expressions, comme plutôt qu'appeler une personne un confrère ou une consœur, on va appeler ça des confreurs. Au lieu d'un copain et d'une copine, des copaines. Puis pour remplacer monsieur ou madame, on va appeler ça mix. Donc, plutôt que de dire monsieur Éric Lantier, on va dire mix Éric Lantier. On change le vocabulaire parce qu'on veut le réorienter en lien avec cette vision du monde. Et moi, ce qui m'a renversé, c'est que si on suit cet agenda-là, on ne devrait plus appeler notre père papa ou notre mère maman. Si je parle à des amis de mon père, je devrais dire « j'ai rencontré ma source ». Réalisez-vous que là, c'est un changement, c'est un paradigme qui est complètement différent. Mais j'aimerais ça vous laisser avec une bonne nouvelle. La bonne nouvelle du jour se retrouve sur le Journal de Montréal. On nous dit que Couche-Tard fait une acquisition en Estonie. Et oui, une compagnie québécoise, mesdames et messieurs, vient d'acquérir un réseau de 23 stations-services et dépanneurs en Estonie. Félicitations à Couche-Tard. Eh bien, bravo! On va avoir une institution québécoise, une entreprise québécoise qui est en train de rayonner en Estonie. Avant de vous quitter, mesdames et messieurs, laissez-moi vous rappeler que les liens reliés aux articles qui ont été cités lors de cette émission sont accessibles sur Décentrer le discours et sur ma page Facebook via le www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Sur ce, mesdames et messieurs, bonne lecture, bonne réflexion et bons échanges avec les gens de votre entourage. Pour ma part, je vous dis à demain.